Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comment développer les secteurs agroalimentaires? Eh bien, c'est le premier sujet qui va être abordé dans ce magazine avec notre invité, professeur Jean-Claude Wanganga, expert.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
En RDC, le secteur agricole, jadis prospère, a du mal à redécoller. Les défis à relever sont encore énormes. On le voit par exemple aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, dont l'une des conséquences est la pénurie de céréales. Alors, qui doit faire la RDC pour relancer le secteur agroalimentaire et la production agricole de produits locaux? Nous en parlons avec notre invité Jean-Claude Wanganga, expert dans les secteurs agroalimentaires. Je vous rappelle le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé, vous voulez participer à cette émission, vous pouvez composer les 0 81 890 63 94 ou les 09 71 63 94. Vous avez également la possibilité de nous écrire à l'adresse service@radiokapi.net. Alors, professeur Jean-Claude Wanganga, vous êtes expert dans les secteurs agroalimentaires. Alors, si aujourd'hui on peut dresser un tableau de ces secteurs du secteur agroalimentaire dans notre pays, qu'est-ce qu'on peut retenir?
On retient rien, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Moi, je dis très sincèrement, si on doit parler du secteur agroalimentaire en République démocratique du Congo, on ne retient rien. Il n'y a absolument rien. Parce que la vocation même de ces secteurs, c'est quoi au fait? C'est que lorsque vous êtes un pays, ce que vous devez faire, c'est de produire ce que vous devez manger. C'est comme ça que vous avez suivi ce slogan, tout le monde le dit, agriculture, priorité de priorité. Ce n'est pas parce que c'est un secteur qui est rentable, mais c'est parce que c'est un secteur qui est prioritaire. J'ai bien dit, un secteur qui n'est pas rentable, mais un secteur qui est prioritaire. Pourquoi je dis qu'il n'est pas rentable? Parce que l'activité agricole, c'est une activité très risquée. Je le dis toujours à qui veut m'entendre. C'est une activité qui est très risquée. Et donc, financer ce secteur, c'est accepter de financer énormément des risques. Mais c'est un secteur qui est prioritaire. prioritaire. Pourquoi? Parce que si nous ne produisons pas ce que nous devons manger, nous serons obligés de dépendre des autres. Donc nous devons manger, nous devons acheter ce que produisent les autres, avec toutes les conséquences qui vont avec. Lorsque vous achetez pour manger ce que produisent les autres, vous êtes dépendant, vous envoyez vos devises à l'extérieur, avec toutes les conséquences, vous ne pouvez pas diversifier votre économie. Donc, c'est un secteur prioritaire, non rentable, mais on peut réfléchir sur les filières pour créer de la rentabilité en bout de chaîne. Qu'est-ce que ça signifie ? Je prends le manioc. Le manioc, c'est une spéculation qui pousse chez nous. J'ai dit, le manioc n'est pas rentable, mais prioritaire. Donc, nous sommes obligés à produire le manioc si nous ne voulons pas que le manioc que nous allons manger aujourd'hui et demain nous vienne d'ailleurs et que nous soyons dépendants. Donc, si nous produisons le manioc pour manger, nous enlevons, nous supprimons notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur et nous gardons nos devises. Donc, nous pouvons diversifier notre économie. Et en bout de chaîne, la réflexion, elle est simple. Le manioc est là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre manioc gagne de la valeur? C'est là le rôle de l'industrie agroalimentaire. Réflexion sur les utilisations créatrices des valeurs, créatrices des richesses. Donc voilà un peu le modèle, voilà le topo. Mais nous ne sommes pas encore à ce point. Mais je suis étonné de voir que chaque fois on en parle. On en parle, mais c'est comme si de l'autre côté du mur, personne n'écoute. Vous avez parlé de la guerre en Ukraine. Puisque cette guerre a été imposée au monde, vous avez vu les conséquences de cette guerre. Maintenant, tous les pays du monde se positionnent comme des pays pouvant donner de la nourriture au monde entier. Mais nous pouvons nourrir le monde entier. La RDC peut nourrir le monde entier. Je vous jure que notre pays a la capacité de nourrir le monde entier. Mais nous sommes simplement négligents. Nous sommes négligents parce que nous ne savons rien faire de nos mains. Excusez-moi de dresser ces tableaux-là. Nous faisons avancer la science, nous laissons la science avancer sans avancer avec. Et nous faisons tout et rien du tout.
Mais professeur, concrètement, parce que c'est ça le sujet, comment on doit faire? Vous avez dit, c'est un secteur qui n'est pas rentable, mais qui est prioritaire. Donc quand vous dites qu'il n'est pas rentable, là vous pensez pas décourager ceux qui veulent peut-être
investir dans ce... Je ne décourage personne.
Oui.
Je ne décourage personne, mais j'interpelle l'État.
Oui.
Parce que puisque c'est un secteur qui n'est pas rentable, donc c'est un secteur qui doit être subventionné, parce que c'est un secteur prioritaire. Vous comprenez?
Oui.
Donc, ce n'est pas rentable, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est prioritaire. Mais puisque l'État sait que c'est prioritaire, l'État doit subventionner le secteur. Sinon, nous serons obligés de prendre des milliards de dollars. On augmente le budget, mais nous devons manger. Et puisque nous devons manger, nous devons acheter des céréales. Et nous allons les acheter où? Nous allons les acheter chez les autres. Et donc, nous ne pourrons pas diversifier notre économie.
Alors
le truc, c'est faire, c'est que tout le monde a déjà fait. En fait, c'est un modèle qui existe déjà. Tous les pays du monde qui se sont spécialisés dans le développement des spéculations. Mais pourquoi on dit que c'est l'Ukraine qui fournit les céréales, etc. En fait, l'Ukraine s'était positionnée dans cette filière. Et l'Ukraine ne produisait pas des céréales pour faire le foufou. Non. Pourquoi le monde entier a le regard tourné vers l'Ukraine? Parce que les céréales qui étaient produites à l'Ukraine servaient aux chaînes des valeurs. Et donc, si on n'étudie pas, on peut produire comme on veut. Mais s'il n'y a pas d'utilisateur capable d'acheter votre marchandise pour créer de la valeur, votre marchandise ne sert à rien. Ça sert qu'à nourrir les gens, ça sert à rien. Donc, produire, c'est bien, nous allons produire pour manger. Même quand je parle du manioc, Lorsque je vous dis qu'en bout de chaîne, on doit réfléchir sur les utilisations du manioc, je veux dire que nous n'allons pas... Ce n'est pas le manioc panifiable qu'on va manger comme foufou ou comme chikwang. Non. Ça, nous allons continuer à produire pour manger. Mais au même moment, nous réfléchissons sur un manioc particulier qui sera utilisé pour les industries. C'est-à-dire, on produit de l'amidon, on fait du pain, on fait de la colle, on fait tout ce qu'on veut avec ce manioc-là. Il n'y a que si vous avez soudé ces segments que votre agriculture peut devenir rentable. Si ces segments ne sont pas soudés, votre agriculture ne sera jamais rentable.
Voilà, prenons, avant de passer la parole aux auditeurs, prenons le cas du manioc. Alors, s'il faut, comme vous l'avez dit, essayer de booster ces secteurs de la production du manioc et puis voir comment qu'il y ait une valeur ajoutée en faisant en exploitant ce manioc dans les secteurs agroalimentaires, qu'est-ce qui peut être concrètement fait?
Alors, pour être pédagogique, je vais rester sur le manioc. Même si vous me demandez de parler d'autre chose, je ne vais pas en parler. Je reste sur le manioc. Prenons le manioc. Qu'est-ce que nous faisons du manioc? Chez le journaliste, nous, Congolais, producteurs de manioc, qu'est-ce que nous en faisons? Nous mangeons le manioc cru. Hein, chez nous, dans le banc Nundu, on appelle ça matulugu. Hein, c'est du manioc sucré qu'on peut manger cru, comme une patate. Nous pouvons faire de la chikwang avec. Nous pouvons faire le foufou avec. Ça, c'est ce que nous pouvons faire avec notre manioc. Nous, pour manger, nous avons besoin de ça. Si nous ne le faisons pas, nous devons acheter ça. Donc, ces trois utilisations vont être comblées par des achats extérieurs que vous appelez importation. Maintenant, en dehors de ça, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Parce que si nous demandons à l'État de mettre de l'argent seulement pour que nous puissions manger les matulukou, la chikwang et le foufou, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, ce que nous allons demander à l'État et aux intelligences que nous représentons, c'est en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre parce que ça pousse bien chez nous. Alors, à ce moment-là, on se dit, bon, tiens, nous avons 10 variétés de manioc. Nous avons sélectionné ces trois variétés. Pourquoi ces trois variétés? Parce que la variété X, elle est très bonne si on veut manger le matulukou. Vous voyez, quand vous êtes à Kinshasa, ça se mange cru avec des cacahuètes, les gens, ils adorent ça. Donc, on développe ça, mais ça, c'est pour une utilisation locale. Et puis, nous avons, pour notre chikwang du plateau de Bateke, pour que ce soit de meilleure qualité, nous avons besoin de telle variété, on développe ça. Et pour le foufou, la meilleure variété, c'est telle variété, parce que c'est riche en protéines, parce que, etc. On le fait. Mais après, ce n'est pas tout. Puisque ça pousse bien, nous poussons notre raisonnement plus loin. Quelles sont les autres utilisations qu'on peut faire du manioc? On va vous dire qu'on peut faire de la colle alimentaire avec le manioc. On peut vous dire qu'on peut avoir de l'amidon avec le manioc. On peut vous dire tout ce qu'on peut vous dire. On peut faire du pain avec, etc. Alors maintenant, nous quittons le ventre, nous quittons notre ventre pour aller vers de la valeur ajoutée. C'est là l'intérêt du secteur agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire, où nous allons réfléchir parce que nous avons été en retard. Le vrai problème, c'est que lorsque l'industrie s'est développée, nos cultures, on ne les considérait pas comme des cultures industrielles, ce qui est une fausseté, mais énorme.
Oui.
C'est une fausseté énorme. Toutes les cultures peuvent être industrialisées. Mais on a mis dans nos têtes qu'il y a des cultures qu'on appelle des cultures industrielles et des cultures qui ne sont pas des cultures industrielles. Et c'est encore enseigné jusqu'à aujourd'hui. C'est une fausseté énorme.
Voilà, professeur, excusez-moi de vous interrompre à ce niveau, on va y revenir, puisqu'il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. Nous avons Charles Kisimba qui nous appelle de Lubumbashi, Jean-Claude Yakindou. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, soyez le bienvenu. C'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. On est en train de parler de comment développer le secteur agroalimentaire en RDC avec le professeur Jean-Claude Bouanganga, expert dans les secteurs agroalimentaires. Le numéro d'appel, si vous voulez intervenir, composez les 081 890 63 94, le 09 71 663 94.
Vous nous écoutez déjà en FM sur toutes les plateformes digitales.
Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Charles Kissima nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Charles. Charles, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour Monsieur Professeur.
On vous écoute Charles.
Oui, à part l'autofinancement, Monsieur Marcel, des uns et des autres, l'État devrait financer les particuliers. La réalité en plein 21e siècle, ce n'est que la main d'œuvre traditionnelle qui construit son bonhomme de chemin au sein de notre communauté. C'est grave et c'est honteux. Et, Monsieur le Professeur, vous avez évoqué tout à l'heure la subvention de l'État. Mais, moi, je pense que l'État lui-même qui devrait subventionner les particuliers, c'est l'État lui-même qui continue à négliger la consommation locale au détriment de la consommation étrangère. Est-ce que cette subvention-là produira-t-il des fruits? En tout cas, je ne pense pas. L'État devrait d'abord commencer en nous donnant l'exemple et en produisant local et en consommant local, question d'inciter aussi les autres, de donner aussi les goûts aux uns et aux autres. Mais malheureusement, même vous, le professeur dans nos universités, vous ne cessez qu'à négliger la consommation locale. Et quelle est la leçon morale que vous donnez aux étudiants? Vous favorisez beaucoup plus que ceux qui viennent de l'extérieur en négligeant ce que nous produisons localement. Et c'est grave. Et je ne sais pas où est-ce que ça va aboutir. Et pour terminer, moi je pense que la seule solution est financée dans les particuliers, dans les libéraux, parce que les associations d'aujourd'hui sont abandonnées, monsieur les journalistes. On ne sait pas. Il y a autant de taxes, il y a autant d'impôts. Or, on ne sait pas si réellement on veut encourager les Congolais ou bien on veut décourager à leur triste sort. Voilà un peu ce que j'ai voulu placer.
Merci Charles Kissima d'avoir appelé de Lubumbashi. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour Marcel. Bonjour aussi à monsieur le professeur Jean-Claude.
On vous écoute.
Oui, Marcel, laissez-moi vous dire que je suis d'accord avec le professeur quand il dit que non, c'est un secteur risqué. Mais j'ai dit c'est un secteur risqué, mais c'est aussi un secteur rentable. Si nous sommes arrivés aujourd'hui là où nous sommes arrivés, c'est parce que nous ne parvenons pas à développer nos chaînes de valeur agricole. Et à qui incombe la faute? La faute incombe, comme l'a dit mon prédécesseur de Lubumbashi, M. Chat, incombe à l'État congolais lui-même. Parce que nous avons le sol, nous avons tous les atouts. Moi, je parle de manioc comme exemple, c'est qu'a aussi brandi le professeur. Mais il y a possibilité de développer la chaîne de valeur agricole avec les manioc, voire les maïs, et nous aurons des résultats escomptés. Si au jour d'aujourd'hui nous sommes dans ce contexte-là, fort malheureusement parce que l'État congolais lui-même ne fixe pas les regards vers la consommation locale. On veut tout importer de l'Europe. Nous avons les sols qui sont riches, nous avons la forêt, nous avons tout. C'est question de développer la chaîne de valeur agricole et nous allons aboutir à des résultats vraiment qui seront escomptés par toute la communauté, toute la population marseille. C'était juste au moins ça ma petite contribution par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Et si nécessaire, si le professeur pourra me disponibiliser ses coordonnées à vous pour que je puisse m'entretenir avec lui juste après l'émission.
Merci. Voilà. Merci Jean-Claude d'avoir appelé de Kindu. Professeur Bwanganga, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous sentez que tout le monde veut que ça marche. La question c'est tout le monde veut, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que nous réfléchissons à l'envers. Nous réfléchissons à l'envers. Suivez-moi bien lorsque je dis ce que je dis, parce que je suis sérieux quand il s'agit de ça. Sur le journaliste, j'ai dit non rentable prioritaire. Quand je dis non rentable prioritaire, non rentable, je reste sur l'échelle. C'est l'échelle de la consommation. Quand tu consommes, tu consommes. La consommation, ça fait pas rentrer de l'argent dans tes poches. Et puis, en plus, puisque ça dépend des aléas climatiques, etc., il y a plein de trucs là-dedans. Vous avez vu, enfin, pour changer un peu de sujet, je me suis donné la discipline, mais je vais changer. Moi, j'ai vécu ici, dans le Kwilu, un problème avec l'élevage. Je vous jure que je voyais des fermes, des gens perdre des centaines de bétail. Vous vous imaginez quelqu'un qui a passé 10-15 ans à développer son élevage et en un jour, tout est parti. Tout est parti. Donc, c'est une activité très risquée. Et donc, le rôle de l'État, justement, c'est de sécuriser ces producteurs qui sont importants pour la survie de l'État, pour donner de la nourriture à la population, éviter les importations. Ça, c'est ce que je dis. Et donc, lorsque notre ami de Lubumbashi dit qu'il faut financer les particuliers, mais c'est exactement ce que je dis, lorsque je dis subventionner, c'est pas simplement donner de l'argent, non. On peut entretenir des routes de dessertes agricoles, on peut donner des facilités de dédouanement pour les équipements, ce qui se fait, etc. Et encourager vraiment, aller au fond, encourager les agriculteurs. C'est ça le rôle de subvention. Je suis d'accord lorsqu'il dit que ça doit passer par des particuliers. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, je crois qu'il y a nos autorités qui nous écoutent, ils doivent prendre ça au sérieux, parce que sinon, ça va être compliqué. Et autre chose, nous avons changé nos habitudes alimentaires, c'est vrai, ils le disent. Chez Marcel, vous-même, vous êtes plus à l'aise à manger du pain le matin au petit déjeuner qu'à manger une chikwang. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, nous avons changé nos habitudes. C'est vrai que c'est philosophique. On devrait revenir en arrière, mais au stade actuel, c'est difficile. C'est difficile de revenir en arrière parce que vous n'allez pas dire à vos enfants, écoutez, le thé le matin, vous allez le prendre avec un petit bout de chikwang. Non, ça va être compliqué. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Nous avons pris des mauvaises habitudes, nous avons commencé à manger du pain, etc., ce qui nous a rendu dépendants des autres. Mais nous devons réfléchir sur notre indépendance alimentaire. Ça, c'est très important. Notre ami dit, c'est rentable. Il faut développer des chaînes de valeur. Ça ne devient rentable qu'à la fin. C'est-à-dire que ce sont les chaînes, ce sont les industries qui sont à la fin, qui rentabilisent la chaîne. Et la TVA pour les industries sert à ça. C'est ce qu'on appelle taxe sur valeur ajoutée. Lorsque vous achetez de la valeur sur une spéculation, l'État capte une partie, et c'est avec ça que l'État va commencer à subventionner les secteurs producteurs à la base. Donc, chaîne des valeurs, ça ne doit pas être un mot creux. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de chaîne des valeurs, c'est un mot creux. Parce que vous avez suivi, il y a pas longtemps, on a parlé du développement des chaînes des valeurs en République démocratique du Congo. Vous en avez même parlé à la radio Capi, partout, on en a parlé, chaîne des valeurs. Et on est un peu comme ça, hein, colonisation, tout le monde dit colonisation, colonisation. Et puis, décolonisation, chaîne des valeurs. Mais c'est quoi chaîne des valeurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Le manioc, notre manioc à nous, quelle est l'industrie qui a été conçue pour le manioc? Ça n'existait pas.
Donc, il y a beaucoup de slogans.
C'est nous qui devons penser ça.
Donc, c'est qu'il y a beaucoup de slogans creux. C'est ce que vous voulez dire. Il y a beaucoup de slogans creux.
Parce que, monsieur Marcel, lorsqu'on vous dit chaîne des valeurs, hein, et vous, ça sonne bien dans vos oreilles. Et vous vous dites, écoutez, nous allons développer des chaînes des valeurs. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire chaîne des valeurs? Ça ne veut absolument rien dire dans le contexte de la RDC. Ce qui veut dire que lorsque l'industrie se développe, vous devez faire en sorte que vos spéculations s'insèrent aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie développée de bout en bout pour le manioc. C'est nous qui devons penser cette industrie. C'est ça le truc. C'est comme ça que l'autre fois, je crois à la radio Capi, j'ai dit ceci. Je vais en profiter pour donner un message au chef de l'État. Vous voyez, les nous avons de la guerre et tout ça, tout le monde dit, bon, les jeunes vont faire la guerre. Et les professeurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous devons développer notre pays. Nous sommes obligés maintenant de développer notre pays. Et le service national est là pour ça. Prenez-moi 10 profs, envoyez-les là-bas, donnez-leur l'argent. Dites-leur, professeur, développez ça. Faire. C'est pas à la télé, c'est pas à la radio. Ça se passe pas comme ça. Ça énerve. Et vous sentez que je monte d'un cran parce que ça m'énerve.
Voilà, on va se calmer. On va se calmer.
Dans mon pays, on va être incapable de développer le secteur.
D'accord, professeur. On va se calmer. Alors pour se calmer, on va se rendre à la province de Lualaba et mais également dans la ville de Lubumbashi.
Je suis calme.
Oui, c'est bon.
Je suis un peu excité, mais je suis calme.
C'est bon. Alors, on va écouter. Justin Koulou qui nous appelle, je pense bien, depuis Fouroumé, là-bas. Justin Koulou, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce net moment.
Alors, on vous écoute, Justin.
En suivant cette émission, les choix du sujet, exemple, j'ai eu même la chair de poule. Ça, je le dis sans crainte d'être contredit, que les Congolais aiment beaucoup les produits venant d'ailleurs. Et les produits locaux, ceux qui sont produits localement, ce sont les produits suyés. Donc, ce qui ballonne bien au ventre, c'est quand on marque sur la boîte « Made in China »,« Made in United ». Donc là, les Congolais s'avancent plus rapidement pour manger. Il y a les cas que vous avez évoqués pour le manioc, où vous parlez de l'augmentation de la production de manioc, or qu'il y a même des pas en arrière dans la production de manioc. Et là, je prends quand nous arrivons à Luena, et nous passons Bukama, Kayeye, Kilomboï, Kapamaï, partout là-bas, même à Kinkonja. Les gens mangent uniquement que la bouffe de manioc. Donc ce n'était pas leur culture de manger le maïs. Même moi qui vous parle, je grandis avec la farine de manioc. Mais arrivé aujourd'hui, si vous avez quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui nous écoute à ce net moment, il y a le produit, le manioc de chien sont pourris. Même la dernière saisonnière, les champs, les manioc qu'on a cultivés l'année passée commencent à pourrir cette année. Et juste là, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui cause cette pourriture. Il y a l'ONG Mutufuate située à Luena. Et nous avons écrit, nous avons crié, nous avons je ne sais pas fait quoi. Qu'est-ce qui nous reste de faire pour que cette population soit d'abord assistée suite aux catastrophes de la pourriture de manioc. Juste là, à Kamina, c'est plus proche, mais les gens se tournent toujours dans leur fauteuil roulant, dans leur bureau, voire même le ministre de l'Agriculture, à qui on avait adressé même une lettre. À la fin de mon intervention, je vais vous forwarder, monsieur Marcel, la lettre qu'on avait adressée au ministère de l'Agriculture à Kamina. Et on a fait même des copies partout, à Kinshasa, aux agronomes agriculteurs, aux assistants. Donc partout là, on a rédigé. Mais jamais jour que j'ai eu une réponse conformément à cette pandémie qui bat son plein dans le territoire. Les Congolais aiment beaucoup les luxe. Il suffit seulement d'emballer quelque chose. Donc nous sommes importés. Même les produits, la tête fait subir une transformation, ou soit ça ne peut pas subir une transformation, ça fait les éloges pour les Congolais, et ils s'avancent plus rapidement pour prendre et à manger, et même leurs maisons là sont très satisfaits quand on jette des boîtes, et moi je mange la farine provenant de la Zambie. Or, nous avons des dirigeants pour développer notre pays, nous devons produire localement. Et il y a quelque chose qui nous manque peut-être dans notre vie. Et quand vous prenez, vous avez déjà, même notre invité là a déjà utilisé l'avion, survolé, partir à Malemba, à Manon. Même ces gens-là qui utilisent les avions, demandez-les. Quand ils quittent seulement la surface terrestre, là où il y a des montagnes et les planches qui bloquent, la terre est vide dans le Grand Katanga. Il y a seulement l'engouement à Lubumbashi, ici à Fungurume, à Kolwezi. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné l'agriculture, ils s'avancent là où il y a une facilité de vie. Là où il peut entrer dans le montagne aujourd'hui, il trouve quelque chose comme matière et part à la maison, il vend et on lui donne quelque chose, il mange le matin. Donc les gens ont vidé les villages pour être en ville. Quand vous survolez seulement avec l'avion, ça fait même pitié. La terre, le Congo est pratiquement vide. Mais les gens, les autorités ne pensent pas à régulariser cela. Quand je suis à presque 12 kilomètres de la route qui mène, qui provient du territoire de Olomami, de Malemba, de Kasaï, donc c'est chaque jour qu'on enregistre des venants. Et ils n'ont pas même pas les grands travaux qu'ils ont fait en ville, si pas seulement leurs femmes vont laver les sous-vêtements de gens et les maris prennent son vélo en ville pour subvenir à la maison et on mange. Mais on laisse les bons boulots de faire les champs. Ça fait pitié, monsieur Marcel, si il y a quelqu'un qui est en train de me suivre à ce net moment, il peut être mon témoin. le Congo a besoin de l'agriculture pour stationner nos vies et nos activités.
Merci. Merci Justin Koulou d'avoir appelé depuis Fougouroumé au Lualaba. Orsen, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Orsen.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup, merci Marcel pour la parole. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi ce secteur est négligé. Parce que nous, ici à Lubumbashi, voire jusqu'à Kolwezi, les produits que nous consommons ici à Lubumbashi, ça vient de la Zambie. Alors que nous avons des terres ici chez nous, qui étaient Kasumbalé jusqu'à Lubumbashi, il y a des espaces vides, qui étaient Lubumbashi jusqu'à Likasi, il y a des espaces vides, qui étaient Likasi, Fungurume, passé jusqu'à Kolwezi, il y a des espaces vides. Mais nous ne voulons pas cultiver. On dépend de la Zambie. Ça me fait honte. Même du piment, monsieur Marcel, je vous dis que même du piment vient de la Zambie. Les ndunda ici proviennent de la Zambie. Tant qu'on a des terres. Vous-même, je pense que vous utilisez les réseaux sociaux, vous voyez les informations qui circulent ces derniers temps concernant les grands Kassai du côté Kassai occidental, si c'est Kassai central, si je ne me trompe pas. Un méca de maïs qui s'élève à 15 000 francs. Mais c'est pour dire que là, dans les Kassai, il n'y a pas de terre à cultiver. Il y a des terres à cultiver. Donc, nous, les Congolais, on n'arrive pas à comprendre c'est quelle faiblesse qu'on a et pourquoi le gouvernement ne veut pas nous soutenir dans ça. Parce que quelqu'un peut avoir un petit projet, mais vu ses moyens que la personne est limitée, la personne n'a pas la possibilité de faire que les projets-là soient gros. Et donc la personne sera limitée. La personne peut produire même des sacs de maïs, 3 sacs de maïs. Mais s'il y a des volontaires, comme nos autorités sont là, le gouvernement central peut aussi s'impliquer dans certaines choses, surtout dans ce secteur-là, pour que non, la population se retrouve. Il peut accompagner la population avec quelque chose comme ça. Quelqu'un qui devait cultiver 1 hectare ou bien 2 hectares peut aller même dans 10 hectares. Alors, j'avais 2 petites questions déposées à l'invité pour clôturer. Comment innover dans l'agroalimentaire? C'est la première question. Et la deuxième question pour finir, comment faire pour que chaque province de la RDC soit indépendante dans ce secteur-ci? Voilà, c'est ça les deux petites questions que j'avais. Je vous connais.
Merci, Orsen, d'avoir appelé Lubumbashi. Professeur Jean-Claude Bouanganga, vous avez la parole.
C'est Marcel. Vous savez, nous, à Lingala, on appelle ça Libanga. Hein? Libanga. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais lancer un Libanga à un ami. Ça va vous étonner. C'est le professeur Jean-Paul Kibambe. Je crois que s'il m'écoute maintenant que je vous parle, s'il m'écoute, il va se dire, mais comment Jean-Claude ne s'est pas énervé? Parce que, au fait, on venait d'en parler il n'y a pas longtemps. Et dans nos discussions, il est ressorti une seule chose. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. C'est-à-dire que nous sommes dans des situations immédiates. Voilà quel genre d'homme nous sommes. Mais, nous sommes dans des situations immédiates, mais nous mettons au monde des enfants. C'est terrible. Donc nous ne pensons pas au lendemain, comment ça va être demain. Notre ami de Lualaba nous parle des habitudes. Ben oui, nous avons de mauvaises habitudes. C'est philosophique. Hein. Ça dit que lorsqu'on développe les industries, il y a ce que nous appelons des analyses sensorielles. Ça veut dire que moi, je peux vous imposer un produit, je sais le faire. Je viens ici en RDC, j'étudie vos habitudes alimentaires, je trace le profil de vos produits, et puis je propose des substituts. C'est de cette façon-là qu'on pénètre une industrie ou un nouveau produit dans un marché. Ça, on sait le faire. Tout le monde sait. On a étudié ça. On fait le moins sérieux, mais on a étudié tout ça. Donc, on sait comment le faire. Et ces habitudes, à force de les avoir, c'est en français, on dit... C'est quoi l'habitude déjà? Il y a un monsieur qui a dit est habituel, c'est que l'on fait pour l'avoir déjà fait souvent. Or, souvent est proche de toujours. C'est pour ça que l'habitude ressemble à la nature, parce que la nature c'est toujours. Donc, nous avons pris des habitudes qui, petit à petit, sont devenues notre nature. Et maintenant, il faut une conscience. Il faut une conscience pour dire non. Vous voyez la situation en Ukraine, ça doit nous réveiller. Nous avons pris des mauvaises habitudes. Comment faire? C'est comme ça que je dis, nous n'allons pas changer nos habitudes de fond en comble, mais nous pouvons les adapter avec nos produits à nous pour ne pas dépendre des autres. Ça, c'est pour notre ami du Lualaba. la négligence du secteur, notre ami Orsin dit oui. Négligence du secteur, c'est aussi nous-mêmes. Nous avons négligé l'agriculture parce que, vous savez, quand vous allez à l'université, nous, quand on était étudiants à l'université, il y a une prof qui nous disait c'est pas sexy de faire l'agronomie parce que les filles, elles adorent les gens qui font médecine, qui font droit, qui font économie. Et agronomie, bon, enfin, ça fait glauque, quoi. Mais c'est comme ça. On a négligé ça déjà à la base. Alors que l'agronome, son rôle, c'est quoi le rôle de l'agronome? En fait, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est de détecter les angles morts du secteur. Parce qu'il y a beaucoup d'angles morts. Quand vous conduisez, il y a des zones que vous ne voyez pas. Mais il faut minimiser ça. Nous gérons les angles morts pour développer l'activité. L'agronome, c'est pas l'agriculteur. C'est pas celui qui va aller faire le champ, etc. Mais c'est celui qui vous dit ce que je vous dis maintenant. Mais lorsque l'agronome est négligé, les secteurs ne peuvent pas aller, ne peuvent pas avancer. Ça peut pas avancer. Aujourd'hui, monsieur Marcel, tout le monde se lance dans l'agriculture. Tous les politiciens, ils ont des fermes. Mais quand ils ont des procès aux cours et tribunaux, ils appellent des avocats. Quand ils vont faire l'agriculture, ils lisent des livres. Ah, vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes des farceurs. Nous sommes des farceurs. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. Alors, notre ami m'a dit, comment innover? Ah ben oui. Ici, sur place, à Bandounouville, là où je suis, j'ai réfléchi, parce que j'ai une thèse en industrie agroalimentaire, avec une spécialisation en brasserie, sciences technologies des aliments. J'ai dit, mais je ne peux pas être docteur en sciences agronomiques. Et quand je veux rencontrer ma mère, paix à son âme, j'ai dit oui, je suis allé en Europe, j'ai ramené un papier. C'est quoi un diplôme? C'est un papier, ça. Mais je monte une brasserie, une petite brasserie, de recherche, mais palpable, avec pour objectif, utiliser les matières premières de chez nous pour produire de la bière. C'est vrai que ça ne va pas faire concurrence aux grosses industries brassicoles, mais au moins, ça va montrer aux gens que toutes les idées, somme toute reçues que nous avons sur la bière, ce sont des idées fausses, qui nous ont simplement été inculquées pour nous désorienter. C'est ça le truc. L'innovation, c'est ça. C'est briser le mythe. Comment innover? Briser le mythe. Sortez des livres, sortez des livres. Lorsqu'on écrit quelque chose dans un livre, c'est fini. C'est la science de l'histoire, ça. Nous, on ne doit pas lire des livres. Ben, enfin, je vous encourage à lire des livres, quand même. Mais c'est pas ça qui va vous faire vous développer. C'est pas ça qui va vous aider à innover.
Donc, si aujourd'hui, si je comprends bien,
laissez-moi
professeur...
aller jusqu'au bout. Bah, laissez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. Je suis excité.
Allez-y, professeur.
Alors, je dis ceci, monsieur Marcel. Est-ce qu'il y a un livre, quand on faisait le vaccin contre Covid, il y avait un livre qui en parlait? Non, il n'y en avait pas. Ah, mais le livre va sortir après. Mais il y aura tellement de gens qui vont se ruer dessus. Ah, je vais lire comment on fabrique le vaccin Covid et tout ça. Ben, c'est du passé, ça. Donc, l'innovation, c'est briser la glace. C'est quitter les idées reçues. Aller vers des innovations. Étudier la société. Poser des vraies questions. Prendre de bonnes démarches pour avancer. L'indépendance de provinces, on en a parlé. Nos provinces font tout et n'importe quoi. Nos provinces font tout. Et j'avais dit à une émission ici à la Radio Capi, j'ai dit, écoutez, laissez-nous ce boulot-là. On regarde les provinces. La province de Kwilu peut se spécialiser en quoi? Le Maïndombe peut se spécialiser en quoi? Le Kwango, avec son sol sablonneux, peut se spécialiser en quoi? Etc. Et comme ça, on... Mais... Je ne sais pas si je veux me faire comprendre en si peu de temps, mais on doit arriver à ça. Mais vous avez une agriculture où quand il y a des programmes, programme manioc, programme maïs, programme riz, patate douce, igname, vous faites quoi au fait? On fait tout et on fait rien. C'est ça donc, l'indépendance de province doit aller vers la spécialisation de province dans des spéculations. Il ne faut pas faire du saupoudrage, j'ai toujours dit ça. Ne faisons pas du saupoudrage. Un petit projet pour le manioc ici, dans le Kwilu, on donne 10 hectares ici, 5 hectares là-bas, et puis on va là-bas, on fait manioc, ici on fait patate douce, et puis non, les cultures rares,
Non, c'est de l'aventure.
Professeur,
mettons du sérieux.
Professeur, dans ce que nous faisons. Comprend, ouais. On est en train de vous suivre attentivement. C'est le seul problème. Il faudra qu'on mette du
dans
sérieux.
Dans mon excitation, ouais, dans ouais, mon ouais, excitation, ouais, monsieur Martin.
Et il faudra qu'on mette du sérieux. Alors, on va prendre le deux derniers auditeurs. Il y a madame Claudia qui nous appelle de Kolwezi et Platini Mbombo qui est en Bandaka. Madame Claudia, vous êtes à Kolwezi. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à l'invité. En fait, avant qu'on parle de même, avant qu'il y ait la guerre en Ukraine, il y a toujours eu des personnes, beaucoup de gens qui souffrent de malnutrition dans notre pays. Et si on doit vraiment donner des chiffres, parce que je les ai, mais je ne les ai pas sous les yeux, si je pouvais les avoir, j'allais les donner, mais ce sont des chiffres qui sont vraiment alarmants et hallucinants. En fait, depuis la souscription de notre pays au pacte de Maputo, il y a bientôt 19 ans, notre gouvernement n'a jamais respecté ses engagements de Maputo. Il n'a jamais fait quoi que ce soit pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Pourquoi? On a organisé des états généraux sur l'agriculture il y a de cela, je pense, 2 ans. Mais à l'issue de ces états généraux, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout pour booster le secteur agricole. Si nous ne pouvons pas booster le secteur agricole pendant que nous sommes en train de jouir de meilleures conditions climatiques, qu'adviendra-t-il lorsque nous allons aussi connaître les perturbations liées, toutes les modifications liées au changement climatique? Comment est-ce que le gouvernement justifie ce manque de volonté politique, cette mauvaise foi politique? Comment on justifie ça? Est-ce qu'on doit attendre qu'on commence à dénombrer des morts dues à la malnutrition pour qu'on puisse chercher, je ne sais pas, les maïs ou les riz qui sont encore dans les plantations? Nous avons notre bon riz à Bunkeya, à Luena, aussi à Dilolo. Est-ce que le gouvernement ne veut pas seulement payer des moissonneuses batteuses pour produire des riz de bonne qualité qui laissent la population dépendre de riz de l'Occident et a déjà fait, je ne sais pas, plus de 7 ans dans des greniers et des riz de mauvaise qualité que l'OCC ne contrôle même pas. Mais toutefois, on laisse la population consommer. C'est pourquoi? Comment est-ce que le gouvernement justifie sa mauvaise foi politique de s'engager vraiment pour respecter l'accord de Maputo? C'est un peu ça ma préoccupation.
Voilà, merci madame Claudia depuis Kolwezi. Le tout dernier auditeur, c'est Platini Mbombo qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour Platini.
Marcel, bonjour, je salue l'invité.
On vous écoute.
Voilà, merci Marcel, bien que je suis en retard, mais je fais quand même partie de ce débat. D'abord, je remercie tout pour avoir associé à ces thématiques. Moi, en liaison avec la thématique du jour, je vais justement épingler lorsque le président de la République il a dit, parce que la rencontre qu'il y a eu la semaine passée, le 4 décembre 2022, avec la jeunesse congolaise, là aussi un peu épinglé sur le plan de l'inquiétude. Je l'ai suivi moi-même. Et au Congo, comme il a dit, c'est un pays totalement riche, très riche, comme lui-même a dit. Mais ma préoccupation est de savoir, parce que si je fais allusion, moi aussi je parle d'Inde, parce que je suis à l'Équateur, je parle ici de l'Équateur, pas seulement à Mbandaka, mais dans l'agglomération d'une grande province de l'Équateur, où il y a beaucoup de potentialités, si je parle au niveau du site Koubangui. Là-bas, il y a beaucoup plus de production de cacao et de café, etc. Et aussi, si vous descendez, même si dans la province de l'Équateur où je suis, il y a aussi des potentialités. Il y a des feuilles malimanoc, il y a beaucoup de choses à s'attaquer sur le terrain. Alors moi, la question réellement que je vais poser à l'invité du jour qui est là au studio, en tant que ma préoccupation, qu'est-ce que je dis sur le plan de l'agriculture, je sais que d'ici là, on arrive déjà à la fin de l'année 2022. Et très bientôt, là, ça sera l'année 2023. Mais là, l'agriculture, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ça ne change pas? Un Congolais, pour aller au marché chercher les produits, nos produits locaux, ça commence toujours à poser un sérieux problème. Et si je fais aussi allusion, parce que il y a des sociétés importation, comme les importations, ce qu'on dit là, les piodies, etc., tout ça. Bien, ça c'est nos produits. Mais il y a aussi l'importation de tout ça. On amène ça à partir de Kinshasa aux œuvres ici à Mbandaka. Mais aussi, il y a le produit, les activités. Parce qu'on parle agricole, l'agriculture, à l'intérieur, il y en a mon nombre. Alors, c'est comment je vais vous dire, demander à l'invité, à Marcel, si l'invité vraiment peut nous dire, hein, je ne sais pas, si il peut être ensemble avec le gouvernement congolais pour l'amélioration des conditions, surtout sur le plan alimentaire au Congo, et aussi l'agriculture aussi, ça engomme les tout, parce que s'il n'y a pas l'agriculture, je ne sais pas ce qu'il a dit.
Merci.
L'invité peut nous dire, parce qu'il y a des choses, mais souvent il y a une marque d'accompagnement du gouvernement.
Merci Platini.
Tout en respectant que nous avons tout un ministère de l'agriculture.
Merci.
Je ne sais pas si réellement ça fonctionne sur le terrain. Voilà, c'est ça ma préoccupation.
Voilà, merci Platini d'avoir appelé depuis Bamako. On va conclure avec notre invité, le professeur Jean-Claude Banganga, qui est expert dans les secteurs agroalimentaires, avec qui on parle de ce sujet, comment développer le secteur agroalimentaire en RDC. Professeur, vous allez réagir par rapport à ces deux derniers intervenants, et puis ça sera votre conclusion.
Oui, ben il y a pas grand chose à dire parce que notre amie Claudia qui a fait le lien malnutrition et production agricole, c'est plus des contributions pour que nous puissions faire avancer les choses. Et notre ami qui parle du ministère de l'agriculture, etc. Mais c'est pas une responsabilité du ministre, quoi. C'est pas seulement le ministre qui doit développer les secteurs. Il y a beaucoup d'intervenants dans les secteurs. Hein, c'est un peu plus complexe parce que bon, enfin, c'est pas le temps d'une émission qui va nous permettre de vider un sujet comme celui-ci. C'est comme ça que je crois que, enfin, vous avez mon numéro de téléphone. Les gens qui voudraient qu'on en parle sous forme de conférence, de discussion un peu plus large, on pourra le faire. Mais je veux revenir sur les fondamentaux et de manière assez pédagogique pour que les gens retiennent quelque chose de cette émission. J'étais content que vous m'ayez invité et je vous en remercie. Je redis ceci, monsieur Marcel, agriculture, priorité des priorités. Je descends, je dis agriculture, activité non rentable, mais activité prioritaire. Réflexion suivante, création de valeur au-dessus de spéculation. Il est inconcevable, il est vraiment inconcevable d'acheter chez les autres ce qu'on peut produire soi-même. Pas inconcevable, il est une bêtise. Il est une bêtise monumentale d'acheter chez les autres ce qu'on peut produire. Importation zéro, ça ne va pas exister. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter chez les autres ce que nous pouvons leur vendre, ce que nous pouvons produire et leur vendre. C'est une bêtise. Et donc, je crois que on est au stade où notre conscience devrait nous revenir dans le calme. Nous devrions nous asseoir et nous dire, tiens, on a perdu assez de temps. Cette guerre en Ukraine nous a mis la puce à l'oreille. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Et pour le faire, il faut sortir des livres, il faut sortir là-dedans. Monsieur Marcel, je donne cours de transformation des produits agricoles. Dans nos universités, ça passe bien de parler des produits industriels. Mais lorsque tu en parles, tu parles de rien du tout de chez nous. Et c'est dans tous les livres. Et comme ça, on vous formate. On vous formate. C'est comme ça que j'ai dit toujours que la démarche pour sortir de la dépendance alimentaire, de la dépendance industrielle, est d'abord une démarche philosophique. Comment les Blancs ont pensé l'industrie? Comment ils ont catégorisé les spéculations? Et pour quelles raisons? Pour quelles raisons? C'est simple. Donc, si vous lisez tous les livres, nos matières premières, lorsqu'on doit les décrire pour les utilisations industrielles, ce sont toujours de mauvaises matières premières. Il y a des tanins là-bas. Il y a des polyphénols qui vont bloquer ceci. Et c'est dans tous les livres. C'est comme ça. Mais bon sang, ouvrons l'œil.
Alors il faut absolument repenser à notre système de production, en tout cas agricole en RDC. Professeur, vous êtes également chercheur. On va revenir avec vous.
Il n'y a pas assez de temps, monsieur Marcel, je suis voilà, désolé, non. Mais bon, enfin.
De toutes les façons, on y reviendra, professeur
Jean. Excusez mon excitation à outrance.
Alors, rapidement, votre numéro, peut-être des gens sont intéressés qui aimeraient entrer en contact.
Vous pouvez avoir mon numéro de téléphone, c'est 081-252-1313. 081-252-1313.
Voilà, professeur Jean-Claude Banganga, expert dans les secteurs agroalimentaires. C'est un plaisir de vous avoir comme invité pour développer ou commenter ces sujets sur comment développer le secteur agroalimentaire en RDC. On espère vous retrouver très prochainement.
Je peux faire une demande, une émission un peu plus longue et plus pédagogique.
D'accord, nous également fera la demande au niveau de la direction de programme. Au revoir, professeur Jean-Claude Banganga.
Merci beaucoup, au revoir à tout le monde.